Réplique le chevalier de Maison Rouge avec Pierre Bayard et Claude Chop. Alexandre Dumas, je n'avais lu jusqu'à cette année que Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, et Le Comte de Monte Cristo. Lecture merveilleuse, mais liée à l'adolescence. Celle-ci s'éloignant sans recours, je croyais avoir définitivement raté le coche des autres grands romans de cet auteur prolifique et génial. Mais la vie réserve des surprises et vient de m'apprendre que j'avais eu tort en l'occurrence de penser qu'il était trop tard. Intrigué par son titre, Aurais-je sauvé Geneviève d'Ixmer, je me suis plongé dans le dernier essai de Pierre Bayard et il m'a conduit vers le roman qui relate l'histoire d'amour entre la royaliste Geneviève d'Ixmer et le farouche républicain Maurice Lindet, le chevalier de Maison Rouge. Comme ce roman est aussi profond que palpitant, j'ai invité pour en parler Pierre Bayard et Claude Chop, le grand spécialiste mondial d'Alexandre Dumas. Avant d'en venir à la paradoxale entreprise de sauvetage de l'héroïne par un critique amoureux, il faut réfléchir la mémoire des uns et éclairer les autres. Que raconte le chevalier de Maison Rouge, Pierre Bayard ?
Alors, l'action se passe en 1793. Elle commence le 10 mars 1793, donc un mois et demi après la mort du roi. Et elle se termine en octobre 93, quelques jours après la mort de la reine. Le 10 mars 1793, c'est une date, on pourrait dire, être le début de la terreur. Les montagnards vont tenter faire une première tentative pour s'emparer des Girondins. On remet en œuvre le tribunal révolutionnaire, qui va être la machine de la terreur. Et pendant ce temps-là, une conspiration royaliste, dirigée par le mystérieux chevalier de Maison Rouge, tente de faire libérer la reine de la prison du Temple, puis de la prison de la Conciergerie où elle a été emprisonnée.
Donc, tout ça est historiquement attesté.
Alors, avec des nuances sur lesquelles Claude Chop reviendra, Maison Rouge semble être le condensé de plusieurs royalistes, dont un mystérieux Rougeville. Comme vous savez, Dumas prenait un certain nombre de libertés avec l'histoire pour atteindre une vérité plus profonde. Alors, première intrigue, celle de ces royalistes qui tentent de faire évader la reine. Deuxième intrigue en parallèle, mais qui va croiser la première, le républicain Maurice Lindet croise dans la rue une nuit où elle a des difficultés avec une patrouille, la belle Geneviève d'Ixmer, en tombe amoureux, et c'est réciproque, et va se dissimuler sur le plan inconscient la réalité, à savoir, qui pourtant lui crève les yeux, à savoir qu'elle fait partie du groupe de royalistes. Et donc il va se trouver assez vite, quand ses yeux se seront dessillés face à la question de savoir s'il doit ou non révéler la vérité et combattre Geneviève d'Ixmer. Les deux intrigues donc vont se rapprocher peu à peu l'une de l'autre et finir par se croiser.
Et finir par se croiser, mais la fin est tragique, puisque Geneviève d'Ixmer est guillotinée, ainsi que Maurice Lindet.
Voilà,
il meurt
si on doit révéler la fin au lecteur, les deux personnages principaux, et le troisième, Lorrain, qui est l'ami de Maurice Lindet, qu'il a suivi dans sa trahison, dans le soutien amical à sa trahison, finira comme ses camarades sur l'échafaud. Dans un passage qui est absolument extraordinaire, d'ailleurs, puisque il y a une des plus belles métonymies, je crois, de l'histoire de la littérature française, que je vous lis. « Je t'aimais, murmura Maurice », donc il parle à la tête de sa bien-aimée. « Je t'aimais, murmura Maurice, lié à la planche fatale et souriante à la tête de son ami. Je t'aime », alors il y a trois points de suspension après le « M » et le narrateur termine en disant « Le fer trancha la moitié du mot ». C'est évidemment pas seulement le mot que tranche le fer.
Mais vous dites, le titre de votre livre, Pierre Bayard, révèle aussi la vérité au lecteur, au futur éventuel lecteur du Chevalier de Maison Rouge. Aurais-je sauvé Geneviève d'Ixmer? On comprend donc qu'elle ne l'a pas été. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette intrigue, Claude Chop?
Oui, sur cette intrigue, je voudrais insister sur le système d'enfermement qu'organise Dumas. C'est-à-dire, nous sommes dans un Paris capitale d'une révolution et les alliés contre-révolutionnaires entourent la France. Et Paris est fermé. Deuxième enfermement. Et l'héroïne, je ne vais pas dire cachée, mais le sujet principal, en fait, Marie-Antoinette, est elle-même en prison. Donc, on est dans un enfermement totalement tragique qui ne peut trouver de solution, parce qu'il faut s'en échapper. Et celui qui peut s'en échapper, c'est Lorrain, et Lorrain refuse...
Lorrain, qui est le grand ami de...
Il refuse de s'échapper, de laisser passer pour partir. Donc, je crois que c'est ça qui est intéressant. Par ailleurs, j'aime beaucoup la première phrase, hein, comme toujours chez Dumas, qui est... C'était pendant la soirée du 10 mars 93. 10 heures venaient de tinter à Notre-Dame et chaque heure, se détachant l'une après l'autre comme un oiseau nocturne, élancé d'un nid de bronze, s'était envolé triste, monotone et vibrant.
Oui, en effet.
On est là déjà, une sorte de glas est annoncé.
Le glas sonne à ce moment-là. Et en effet, c'est un incipit absolument magnifique. Voilà. Mais quelle place ce roman occupe-t-il dans l'œuvre du Dumas? Autrement dit, à quel moment de sa vie, Claude Chop, l'a-t-il écrit?
Alors, c'est un moment clé, puisque c'est le moment où il a, au début de l'année, il a publié Les Trois Mousquetaires, qui vont lui donner cette espèce de supériorité en roman historique, si j'ose dire, sur tous ses contemporains.
Nous sommes en quelle année?
On est en 45. Et, en définitive, il est particulièrement heureux d'avoir ce débouché parce que son théâtre ne marche plus. C'était essentiellement un homme de théâtre. Le théâtre ne marchant plus, il a vu que le roman feuilleton était une source merveilleuse pour nourrir à la fois ses femmes, ses enfants, ses parasites, tout ce qui l'entourait. Donc c'est un grand nourrisseur. Et donc ce roman des Trois Mousquetaires lui montre la voie. Il sera le romancier historique. Et par ailleurs, ce qui m'intéresse bien dans ce roman, c'est le premier roman qu'il consacre justement à la Révolution. Et plus qu'à la Révolution, à ce qu'il appelle ce chiffre fatal 93. Ah oui. Et évidemment, il faut voir que pour nous, me semble-t-il, pour eux, en tout cas, la Révolution, c'est tout proche, c'est hier. C'est à peine de l'histoire, ou du moins c'est de l'histoire immédiate. Et donc voilà, les deux pôles intéressants, me semble-t-il, c'est comment affronter la Révolution et comment dire la terreur.
Ce sera une des grandes questions des romanciers.
Voilà, et que l'autre traitera beaucoup
93.
Plus tard. Voilà,
mais alors, donc vous me dites que c'est 1845, au début de l'année, il publie Les Trois Mousquetaires, et donc au même moment... Enfin, en un an, il publie deux gros romans aussi importants.
Et vous savez, en écrivant le Chevalier de Maison Rouge, il écrit en même temps, puisque les lettres à Maquet parlent des deux romans, trois romans, il publie en même temps, justement, La Dame de Montsoreau, et il publie également un autre roman. Donc il a trois romans à la fois.
C'était le rythme habituel d'Alexandre Dumas.
Correspondant aux demandes des journaux, c'est ça le problème. C'est le roman feuilleton, les journaux ont besoin d'abonnés, donc ils demandent des romans à Dumas.
Ah oui, tout ça a été publié en roman feuilleton.
Oui, bien entendu.
Alors, maintenant, venons-en, Pierre Bayard, à votre... paradoxale entreprise.
Pas du tout.
Et je voudrais lire. Je vais vous expliquer pourquoi elle n'est pas paradoxale. Tout de même, si, c'est, vous recourez à ce procédé défini par Gérard Genette comme celui de la métalepse, vous entrez dans l'œuvre. Vous entrez dans l'œuvre. Ça ne se fait pas.
Ça ne vous arrive jamais?
Oui, mais si, ça m'arrive très souvent. C'est une attitude assez peu courante chez un critique. Et surtout, je voudrais que vous commentiez votre propre première phrase. « Toute ma vie aurait sans doute été différente si je n'étais pas, pendant mon adolescence, tombé amoureux de Geneviève d'Ixmer. » Alors, que s'est-il passé dans votre adolescence, Pierre Bayard?
C'est un livre qui fait partie d'une série, hein. On pourrait dire être une série de science-fiction, puisqu'il était précédé d'un autre livre qui s'appelait « Aurais-je été résistant ou bourreau ?»
dont vous avez parlé ici même avec Olivier Rollin.
Voilà, avec cette idée d'essayer, comme dans une expérience de pensée, pour prendre l'expression des philosophes, de me transporter dans le passé et de voir comment je me serais comporté à des périodes historiques importantes du passé. Dans le précédent, j'avais créé la fiction que je naissais en 1922, date de naissance de mon père, et non pas en 1954, qui est ma date de naissance. Et donc je me trouvais avoir 18 ans en 40 comme mon père, et j'essayais d'imaginer comment je me serais comporté pendant la Seconde Guerre mondiale, non pas de manière complètement abstraite, mais en étudiant ma famille, ma psychologie, les réactions que j'ai face à des événements qui peuvent avoir des liens de comparaison, et puis surtout des textes littéraires, des essais, pour essayer de comprendre, non pas rapidement de quel côté je me serais situé, parce que très rapidement je réponds à la question en disant que je n'aurais pas été du côté de Pétain, mais pour répondre à la question de savoir si j'aurais eu le courage de passer du refus intellectuel au refus physique. Ça, c'était le premier livre. Donc, dans le second, celui-là, je me transporte encore plus loin, mais à une autre période déterminante, y compris pour nous aujourd'hui encore. La révolution, c'est l'arrière-plan de beaucoup de nos débats politiques. Donc je me transporte sous la révolution, mais avec une variante, c'est que cette fois, dans le même temps, j'entre à l'intérieur d'un livre, par ce procédé de la métalepse, et j'imagine que je deviens le héros du livre et que je prends la place de Maurice Lindé. Si bien que des quantité de passages, je les réécris en me mettant moi-même en scène. Et quand Geneviève parle à son amoureux, elle ne l'appelle
elle
plus
Pierre.
Maurice.
Elle appelle Pierre. Oui, mais vous le faites encore une fois par amour. C'est-à-dire, alors, vous rentrez dans cette œuvre parce que vous êtes tombé amoureux dans votre jeunesse de Geneviève Dixmer.
Voilà.
Ce qui est quand même.
Voilà. Alors, je vous disais par plaisanterie, vous n'arrive jamais d'entrer dans un livre. Mais si, parce que finalement, quand on est enfant lecteur ou quand on reste un lecteur avec une part d'enfance, on entre dans le livre. Et c'est ça que j'essaye tout simplement de mettre en scène. C'est cette coupure avec le monde que nous réalisons quand nous sommes plongés dans un livre, que nous sommes beaucoup plus à l'intérieur du monde imaginaire que du monde réel. Alors, Geneviève Dixmer, en fait, je l'ai rencontrée comme j'ai rencontré le livre de Dumas, par l'intermédiaire d'un feuilleton télévisé. Dans les années 60, c'était un feuilleton dû à Claude Barma, avec une brochette d'acteurs extraordinaires de la Comédie française. Annie Ducot qui jouait Marie-Antoinette, François Chaumette qui jouait le mari de Geneviève Dixmer, Anne Doat. Et c'était un feuilleton dont je n'ai pas revu l'équivalent depuis. Et je serais curieux de voir aujourd'hui un feuilleton de ce niveau à la télévision française. Donc je suis tombé amoureux de la femme, de l'héroïne, de l'actrice, du feuilleton. Et c'est par cette entrée-là que j'ai accédé à cette œuvre de Dumas, que je trouve un peu injustement méconnue. On parle beaucoup des Mousquetaires, qui sont extraordinaires. On parle beaucoup de Monte-Cristo, qui est un monument. On parle beaucoup moins du Chevalier de Maison Rouge, alors que c'est une œuvre qui est peut-être plus intéressante sur le plan de la réflexion historique ou éthique.
Éthique, historique, politique. Alors justement, on va prendre la première scène. Vous entrez dans le roman, Pierre Bayard, et vous rencontrez une femme qui n'a pas sur elle les papiers qu'il faut. La nuit, dans Paris, elle est arrêtée par la patrouille. Alors, que se passe-t-il? Quelle est votre réaction? Et après, je demanderai le commentaire de Claude Chope sur cette scène.
Ma réaction, c'est que je la défends pour différentes raisons. D'abord parce que je suis tombé amoureux d'elle. Et ensuite, parce que si je la défends pas, il n'y a pas de livre. Donc ça, c'est une autre raison de la défendre. Mais vous voyez, immédiatement sur ce cas de figure, il y a des questions éthiques qui se posent. Ce que j'appelle des bifurcations. Est-ce que j'interviens ou j'interviens pas? Et vous avez toute une série de livres, d'essais très sérieux de psychologues américains, par exemple sur la question de l'intervention dans ce cas de figure. Quelqu'un est en difficulté, est-ce qu'on intervient ou pas? Et les réponses sont très variables. Ce qui est évident, c'est qu'on intervient d'autant plus qu'on se sent en proximité identificatoire avec la personne. Et là, une femme qui me plaît, je vais plus facilement intervenir. Mais autre débat éthique, est-ce que je dois défendre quelqu'un qui n'a pas ses papiers alors que la France est sous la menace des armées révolutionnaires qui piétinent aux frontières? Est-ce que je dois faire le choix de défendre quelqu'un qui fait peut-être partie du camp des ennemis? Vous voyez, dès la première scène, en fait, il y a un choix narratif, mais il y a aussi des questions d'éthique qui sont posées. Et c'est ça qui m'intéresse dans le livre. C'est à la fois de jouer sur le ludisme, m'amuser à rentrer dans un livre, mais c'est aussi de passer à travers ce livre pour réfléchir sur des questions qui le dépassent de beaucoup. Et c'est ça que nous attendons de la littérature.
Alors, comment...
Et dans cette première scène, ce qui est très intéressant, c'est les phénomènes de langage. C'est-à-dire le langage des enrôlés à côté du langage des cultivés, des aristocrates. Et il y a une espèce de lutte où les sans-culottes disent, par exemple, la politesse est une vertu aristocratique. Voilà, des choses de ce style. Et on va montrer que là, déjà, il y a une cassure entre la révolution extrême, les extrêmes, qui passent par le langage, et Maurice.
Alors justement, c'est là que j'aurais peut-être éventuellement une objection à vous faire, Pierre Bayard. Parce que vous dites, il y a une bifurcation, il y a un conflit éthique. Dois-je aider cette femme? Voilà la question que vous vous posez en tant que républicain, que révolutionnaire. Mais vous dites que la décision que vous prenez est subordonnée au fait que cette femme vous plaît. Et vous dites que la question du désir perturbe les choix éthiques. Et la dimension du désir, ajoutez-vous, porte un coup aux grandes oppositions de la philosophie morale. Celles-ci, en effet, sont fondées sur les idées de liberté et de pleine conscience. Mais là, il me semble, comme vient de le dire Claude Coppe, qu'il y a une autre dimension dans cette première scène. Parce qu'il s'agit d'une femme, et c'est la galanterie, de façon très générale, qui pousse d'abord Maurice à vouloir la défendre contre l'espèce de brutalité dont elle est l'objet de la part des enrôlés. Et quand Lorrain, son ami, s'en mêle, eh bien, c'est un peu la même chose, parce que Lorrain leur dit, mais à ces enrôlés, soyez polis. D'où leur réponse, la politesse est une vertu d'aristocrate et nous sommes des sans-culottes, répondent les enrôlés. Et là, on a l'un des cœurs du livre, c'est-à-dire, qu'est-ce que la révolution? Est-ce que c'est une rupture totale avec l'ancien monde, ou est-ce qu'on doit garder, justement, le meilleur de l'ancien monde? Et il semblerait que, d'entrée de jeu, Lorrain et Maurice Lindet, tout républicain qu'ils soient, plaident pour la deuxième solution. Et il me semble que c'est l'un des grands enjeux du livre d'Alexandre Dumas.
Oui, tout à fait. Cela dit, comme vous le savez, Lorrain et Lindet, c'est-à-dire moi-même, protestons contre ce qui est une sorte de bavure policière, si je peux dire. Mais nous sommes aussi d'accord sur le principe de contrôler les gens qui circulent la nuit à une époque où la France est menacée. Hein. La solution que propose Morin, c'est que Lindet ou lui-même accompagne la femme au poste. Et c'est à ce moment-là que la femme découvre son visage à la lueur d'un réverbère,
oui,
et que je décide de faire un pas de plus dans l'imprudence et de ne pas accompagner la femme au poste parce qu'elle me demande de ne pas le faire, oui, et je commence par désir pour elle à dévier de ce qui serait la loi républicaine. Il y a deux étapes, hein,
oui,
mais c'est là que je commence, si j'ose dire, à m'embourber.
C'est vrai, mais l'étape de la politesse et de la galanterie ne doit pas être oubliée, parce que il me semble que c'est l'un des enjeux du livre. Le credo central des révolutionnaires, c'est que la révolution inaugure une période entièrement nouvelle. Il s'agit de reconstruire délibérément et intégralement l'ordre social et politique, comme l'a écrit Mona Ouzouf. Les révolutionnaires sont, dans une certaine mesure, des enfants sans mère. Mais il me semble, pour reprendre aussi un propos de Mona Ouzouf, que Lindet comme Lorrain ont une toute autre idée. Ils pensent, comme Madame de Staël, que la République ne saurait jamais être si républicaine qu'elle n'intègre la meilleure partie de l'ancien régime dans laquelle entrent la littérature, les manières, la présence adoucissante des femmes et l'échange civilisateur entre les deux sexes. Ce problème est d'emblée posé par la première scène, Claude Chope.
Oui, enfin, c'est la pensée, je veux dire, syncrétique de Dumas. Dumas voudrait réconcilier les deux France. Il est républicain, mais par ailleurs...
Il est républicain lui-même.
Oui, lui-même est républicain, mais il a une croyance forte dans les valeurs de l'aristocratie, les valeurs chevaleresques. Il y a Athos d'un côté, il y a, j'allais dire, D'Artagnan, qui sans être républicain est un bourgeois. Donc il y a toujours ces deux parties extrêmes et Dumas essaie toujours de réconcilier. Regarder la guillotine est très difficile pour lui. Il va falloir attendre Michelet et la vieillesse pour que dans une œuvre qui s'appelle Création et Rédemption, il regarde vraiment la guillotine en face. En osant...
Dumas ?
Oui, Dumas.
Et alors, ça veut dire quoi, regarder la guillotine en face?
Par là, il accepte le rôle ravageur de la guillotine dans un sens, en disant que c'était nécessaire.
Et il y a un moment où il dit ça.
Il dit ça, c'était nécessaire, comme Louis XI était nécessaire, comme tous ces grands massacreurs étaient nécessaires. Mais sans enthousiasme, bien entendu. Sans... Il accepte cette vision progressiste. Il pense qu'il y avait besoin de cela.
Et en même temps, il me semble, Pierre Bayard, qu'on peut faire un lien entre l'amour de Maurice Lindet et donc de Pierre Bayard pour Geneviève Dixmer et la compassion à l'égard du sort de Marie-Antoinette. Oui. Parce que Marie-Antoinette, c'est aussi le féminin, selon Dumas, qui est attaqué de manière très violente. Et ça me rappelle les réflexions sur la Révolution de France d'Edmund Burke, qui dit justement, à propos de Marie-Antoinette et du sort qui lui est réservé, que l'âge de la chevalerie est passé, celui des sophistes, des économistes et des calculateurs lui a succédé, et la gloire de l'Europe est éteinte à jamais. Et il dit... toujours Burke, dans le nouvel ordre des choses, un roi n'est plus qu'un homme comme un autre, et une reine qu'une simple femme. Quant à la femme, ce n'est qu'un animal. Et encore, de l'ordre, pas de l'ordre le plus évolué. Et un autre voyageur, Arthur Young, anglais, a écrit que, avec la Révolution, l'énorme influence du sexe est affaiblie, ou plutôt réduite à rien. Auparavant, les femmes se mêlaient de tout, afin de tout gouverner. Je pense que je vois très clairement la fin de cet état des choses. Les hommes en ce royaume étaient des marionnettes mises en mouvement par leurs femmes. Maintenant, au lieu de donner le ton dans les questions d'intérêt national, elles doivent le recevoir et se contenter de se mouvoir dans la sphère politique de quelques meneurs célèbres. C'est-à-dire qu'elles en reviennent à ce pourquoi la nature les avait destinées. Elles deviendront plus aimables et la nation sera mieux gouvernée. Arthur Young le dit avec regret, mais c'est comme si la révolution, en effet, était exclusivement une affaire d'hommes. Et de cela, on a l'impression que Alexandre Dumas fait un peu la critique. Pierre Bayard.
Alors, il y a deux histoires d'amour, en fait, dans le livre. Je parlais tout à l'heure de deux intrigues en parallèle et qui finissent par se croiser, puisqu'il y a l'histoire d'amour entre Lindet et Geneviève Dixmer, mais aussi l'histoire d'amour entre Maison Rouge et Marie-Antoinette.
Oui, absolument.
Alors même que Maison Rouge ne l'a pas vue. C'est ça qui est extraordinaire. Il est amoureux d'une femme qu'il n'a jamais vue. Oui. Et ça, c'est une idée qu'on voit les deux compères, Dumas et Maquet, d'ailleurs, évoquer dans leur correspondance. On est complètement au rebours de notre conception romanesque du coup de foudre. Leurs yeux se rencontrèrent, hein, dit Flaubert. Là, ça n'est pas le cas. Il est amoureux d'une femme qu'il ne connaît pas. Ce qui, d'ailleurs, jette un doute politique sur son engagement, parce que il se bat tout autant pour défendre les principes monarchistes que pour son propre désir. Donc je crois que la force du livre, c'est aussi de croiser cela. Alors, en ce qui concerne Marie-Antoinette, je crois que Dumas en donne une vision tout de même plus positive que dans la réalité. Il crée notamment, vous me démentirez ou pas, une scène qui m'a beaucoup intéressé parce qu'elle conduisait là encore à des débats éthiques, et qui est une scène où dans sa deuxième prison, la conciergerie, Marie-Antoinette se voit offrir la possibilité de s'échapper par la bande de Maison Rouge, forcément par Dixmer, mais elle apprend par le billet qui lui est envoyé que sa fuite aura comme coup la vie de ses deux gardiens, Gilbert et Duchesne, qui eux sont des personnages historiques avec lesquels elle a sympathisé. Donc elle a un débat, qui est vraiment un débat cornélien, elle pèse le pour, le contre, et finalement elle décide de ne pas sauver la monarchie, si celle-ci doit se payer du prix de ses deux gardiens. C'est magnifique, mais en fait, manifestement, Dumas s'est inspiré de témoignages de royalistes qui ont donné une vision de la reine certainement beaucoup plus louangeuse qu'elle était en réalité, mais la scène est magnifique.
Oui. Mais on a exactement la même scène dans le Comte de Monte Cristo, au moment où on peut s'échapper, mais il faut tuer pour s'échapper, on refuse de s'échapper. Il y a aussi ce moment, donc c'est un thème dumasien. En fait. Est-ce que l'on peut, est-ce qu'on a le droit de tuer pour, etc.
Et c'est un souci constant de Dumas, je crois, et c'est en ça que le livre est très fort, et plus fort, je trouve, sur ce plan-là que 93 de Hugo, même si 93 est traversé par un souffle poétique extraordinaire. Les personnages de 93 sont un peu des personnages conceptuels, comme dirait Deleuze. Oui. Illustre vraiment une idée brutale. Et là, à de rares exceptions près, comme Simon, hein, le gardien du dauphin, qui est une sorte de monstre absolu, tous les personnages sont complexes et compliqués. Il est très difficile de, de s'identifier à l'un plutôt qu'à l'autre, parce que ce sont des débats, chacun est pris dans des débats, même Dixmer, mon rival,
puisqu'il est terrible, votre terrible rival.
Et ben finalement,
il veut se venger d'elle. Dans quelles conditions? Expliquez-le un peu.
Alors là aussi, autre débat, il décide de se venger de sa femme qu'il a quittée pour moi, mais en sauvant la reine en même temps. C'est-à-dire qu'il a un plan politique et un plan personnel. Alors comment trancher, comment le juger? Son plan, c'est de remplacer à l'intérieur de la conciergerie la reine par sa femme, et donc de rentrer dans la conciergerie avec sa femme et d'en ressortir avec la reine. Ce qui est un plan monstrueux, mais finalement sur le plan politique, c'est quelqu'un qui croit en ses idées, contrairement à moi qui est trahi.
Enfin, donc
est-ce qu'on peut évaluer une action politique sur le fait qu'elle est sous-tendue par un désir personnel? Ça, c'est très compliqué, parce que de toute façon, nos choix politiques sont aussi sous-tendus par des désirs personnels.
Sauf
plus ou moins
que là, conscients. On a l'impression que le choix politique n'est que l'habillage de la vengeance. Dixmer retrouve sa femme qui a vécu quelques mois ou quelques semaines, je ne sais pas, avec Maurice, un moment de bonheur extraordinaire. Il la retrouve. Merci. Et avec vous, voilà. Donc vous avez beaucoup de chance.
Vous en direz plus. Parce
que nous vous envions. Il la retrouve et il met au point une vengeance parfaite, en effet. Mais on a le sentiment que ce qui le guide, ce n'est plus tant la volonté de sauver la reine que celle d'assouvir la haine implacable à l'égard de celle qui l'a trompée, alors que nous le savons, ils ont fait un mariage arrangé qui a une grande différence d'âge entre eux. Il n'était pas particulièrement amoureux d'elle, il est blessé simplement dans sa virilité par la trahison de sa femme. Et là, il y a quelque chose d'absolument machiavélique chez lui.
Certes, mais vous remarquerez que je ne veux pas défendre mon rival, mais que Geneviève à aucun moment ne proteste contre son plan parce qu'elle considère qu'elle est coupable. Et je voudrais vous lire à ce sujet le très beau passage que Geneviève dit lorsque Dixmer, au moment de mener ce plan diabolique, lui dit « Je vous pardonne ». Et Geneviève lui répond ceci « Je n'ai pas besoin de votre pardon, de votre merci, monsieur, dit-elle en étendant la main. Ce que je fais, ou plutôt ce que je vais faire, effacerait un crime et je n'ai commis qu'une faiblesse. Et encore cette faiblesse, rappelez-vous votre conduite, monsieur, vous m'avez presque forcé à la commettre. Je m'éloignais de lui et vous me repoussiez dans ses bras, de sorte que vous êtes l'instigateur, le juge et le vengeur. C'est donc à moi de vous pardonner ma mort. » Et je vous la pardonne. C'est donc à moi de vous remercier, monsieur, de m'ôter la vie, puisque la vie m'eût été insupportable. Séparée de l'homme que j'aime uniquement, depuis cette heure surtout, vous avez brisé, par votre féroce vengeance, tous les liens qui m'attachaient à lui. Je crois que la force des grands textes, c'est qu'on peut les lire à voix haute comme ça.
C'est absolument magnifique, mais je voudrais que nous en revenions à Marie-Antoinette et à ce personnage épouvantable de Simon. Parce que Marie-Antoinette, dans le procès qui lui est fait, et ça c'est attesté, c'est historique, est accusée d'avoir commis l'inceste avec son fils. Et Simon, qui le garde, le savetier Simon, celui qui dénoncera Lorrain et Maurice Lindet, il veut forcer ce pauvre enfant royal à chanter Madame Veto. Et celui-ci veut rester fidèle à sa mère. Mais il est vrai que dans les années qui ont précédé la Révolution, des pamphlets étaient parus qui la dépeignaient sous les traits d'une bête sauvage, la pauvre Marie-Antoinette, répugnante, monstrueuse, qui l'accusait des pires forfaits. C'est ce que dit Jacob Rogozinski, dans son livre « Ils m'ont haï sans raison », de la chasse aux sorcières à la terreur. Elle était accusée d'avoir assassiné son fils aîné en l'empoisonnant, de chercher à tuer le roi de la même façon, d'être une messaline débauchée et lesbienne, de commettre l'inceste avec son frère, avec l'un des frères du roi, et même avec son propre fils. C'est absolument épouvantable. Et cela heurte profondément Alexandre Dumas, Claude Chope.
Oui, il est heurté, même s'il reconnaît la culpabilité de la reine, en fait, dans ses rapports avec l'Autriche. La reine est coupable, mais on ne traite pas une reine de cette façon. Ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est la manière narrative dont il va parler de sa mort. C'est-à-dire, on ne voit pas le couperet de la guillotine tomber. Il refuse, en fait, de la voir mourir, en quelque sorte, puisque il rapporte la dernière parole de Marie-Antoinette, qui est une parole d'extrême politesse, puisqu'elle marche sur le pied du bourreau et elle demande au bourreau de lui pardonner. Et aussitôt après, le couperet tombe, c'est quelque chose comme ça. Donc il y a un refus de voir ce triangle, c'est un triangle je crois, enfin, de la guillotine pour cette reine qui est coupable et qui, dans Le collier de la reine, futur roman de Dumas, apparaît aussi comme relativement légère et elle sera dans les autres romans Dumas de la tétralogie révolutionnaire, elle apparaîtra comme cruelle, très cruelle.
Quels sont les romans de la tétralogie révolutionnaire ?
Alors, c'est Joseph Balsamo qui prépare la révolution, c'est encore sous Louis XV.
Et ça, il l'écrit après, donc ?
Il l'écrit après, oui. Et ensuite, et curieusement, il y a aussi un chevalier de Maison Rouge qui apparaît, qui n'a rien à voir avec celui-là. Il y a une reprise onomastique curieuse. Ensuite, il y a Le collier de la reine, qui est effectivement l'épisode bien connu où la reine se compromet sans le vouloir par l'achat d'un collier. Et ensuite, il y a Ange Pitou, qui est la prise de la Bastille, et la fin, un roman gigantesque. Donc, compte tenu de sa longueur, je ne vous le recommande pas, qui est La comtesse de Charny,
oui.
Où on voit la fin, là, de la Révolution. Donc, vous savez que le désir de Dumas, très vite arrivé, c'était d'écrire le drame de la France. C'est qu'à chaque période historique correspond un roman. Bon, comme la comédie humaine, il n'a pas réussi son grand projet, mais c'était de raconter, au fond, comment la France est devenue la France.
Oui, et puis ce Simon, quand même, c'est vrai, c'est un personnage monstrueux, mais le dernier chapitre, Pierre Maillard, s'intitule « Vive Simon », c'est le dernier mot ironique que prononce Lorrain, dont je voudrais que nous parlions un peu, l'ami désintéressé, l'ami magnifique de Maurice Lindet. Et est-ce que c'est pas l'idée, justement, que la Révolution, à ce moment-là, se défigure en prenant les traits de Simon ? Et donc, si Maurice et Lorrain trahissent la Révolution, par amour pour l'un et par amitié pour l'autre, c'est peut-être aussi parce que la Révolution s'est trahie elle-même. Donc, c'est, je veux dire, d'une certaine manière, ils ne commettent à ce moment-là aucune faute morale.
Oui, je crois qu'effectivement, Pierre Maillard. L'intérêt du livre, c'est de réfléchir sur ce passage de la Révolution girondine à la Révolution montagnarde et sur la mise en place de la terreur et d'y réfléchir de manière critique. C'est ça la force du livre, c'est en ça qu'il nous concerne aujourd'hui, puisqu'on est sans cesse dans nos débats politiques, on réfléchit sur la Révolution et sur les deux révolutions. Vous évoquiez la guillotine, mais cet élément sur lequel a su jouer Dumas, du changement du langage, Geneviève d'Ixmer se trahit un moment parce qu'elle dit « mon Dieu », il aurait fallu dire « l'être suprême ». Et le livre joue beaucoup là-dessus, c'est aussi quelque chose qui est très inquiétant dans ce passage de la première révolution à la deuxième, parce que comme vous le savez, les totalitarismes se définissent par la réécriture complète du langage et la volonté de fabriquer un homme nouveau. Donc il y a aussi cette inquiétude-là dans la manière dont le langage est utilisé à cette époque.
Oui, et cette manière justement de vouloir changer le langage, renouveler le langage, d'entrée de jeu, les deux héros du livre lui sont hostiles.
Oui.
Ils ne veulent pas entrer dans cet engrenage.
Non, puisque c'est assez surprenant. Entre autres, l'officieux de Maurice qui s'appelait Jean et qui a repris un autre nom, Algésilas, je crois, parce que Jean s'était un peu trop catholique. Enfin, il y a quelque chose d'assez amusant. Dumas apprend ses distances par rapport à un langage nouveau qu'on veut imposer.
Et oui, ce personnage extraordinaire de Lorrain, qui est celui qui parle en vers. Et les adaptations cinématographiques du roman, puisqu'il y a eu aussi l'adaptation par le cinéaste italien Capellani, qui fait un film muet, on reproduit Lorrain, l'on fait jouer par exemple par Dominique Paturel dans l'adaptation de Claude Barma, qui en donne une.
une représentation extraordinaire, mais on supprimait cet élément fondamental dans le livre. C'est un personnage qui, la plupart du temps, parle en vers. Oui. Alors, quelquefois, ce sont des vers de poètes de l'époque, comme Parny, quelquefois, c'est des vers de Dumas. Oui. Mais c'est un personnage qui introduit dans ce drame et dans ces conflits éthiques insolubles une sorte de dimension humoristique.
Oui.
Il est le porteur.
Jusqu'à la fin, jusqu'à sa propre mort, jusqu'à son vif Simon.
Voilà. Parce qu'il n'y a pas, ce qui est très intéressant dans les débats éthiques, la littérature le montre, c'est qu'ils sont à la fois complexes, mais ils sont la plupart du temps insolubles. C'est ça qui est dramatique dans les débats éthiques. Que vous preniez la position kantienne de respecter absolument les principes, ou la position plus nuancée de ce qu'on appelle les conséquentialistes, qui vont regarder plutôt les conséquences, vous n'avez jamais de bonne solution. Et je trouve que Lorrain exprime dans le livre une sorte de solution éthique humoristique. Lui condamne l'un des... Dès le départ, il lui dit, lors de la rencontre avec Geneviève, fais attention ou elle va t'entraîner. Et ensuite, il lui redit à chaque fois. Mais il l'accompagne quand même sur la guillotine, parce, au nom d'une morale supérieure qui sort, oui, sort d'éthique souriante.
Mais je lirai ces petits vers aussi comme un regret d'une civilisation qui disparaît. Voilà. Celle du 18e, parce que malgré tout, c'est l'art de la conversation, la vie de salon, que Dumas, dans plusieurs préfaces, regrette lui aussi, cette espèce de sommet de civilisation, à la fois la légèreté, mais justement l'extrême politesse, les salons. Donc il y a tout ce regret, il est tout ça grâce aux vers de Parmeny et des autres.
Oui, et ce sont tous les deux, hein, Lorrain et Lindé, sont des fervents révolutionnaires, hein, des fervents républicains, mais avec un certain nombre de principes. Lorrain est celui qui défend le dauphin contre Simon. Lindé s'est rendu célèbre en tuant des militants révolutionnaires qui avaient commis des crimes le 10 août. Hein, donc ce sont de fervents révolutionnaires, mais avec une éthique qui refuse la dérive de la révolution.
Oui, et en même temps, ce roman, à travers ces deux personnages, est une histoire d'amour, bien sûr, mais aussi un hymne à l'amitié. Il y a l'amitié désintéressée de Lorrain. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose aussi, un moment de découragement idéologique, quand la révolution vire à la terreur, l'amitié devient la valeur suprême. Je dis cela parce que, en pensant aux réflexions de Milan Kundera, qui a connu le siècle totalitaire, dans son dernier essai, Une rencontre. Et il dit ceci, dans notre temps, on a appris à soumettre l'amitié à ce qu'on appelle les convictions, et même avec la fierté d'une rectitude morale. Il nous faut en effet une grande maturité pour comprendre que l'opinion que nous défendons n'est que notre épithèse préférée, nécessairement imparfaite, probablement transitoire, que seuls les très bornés peuvent faire passer pour une certitude ou une vérité. Contrairement à la puérile fidélité à une conviction, la fidélité à un ami est une vertu, peut-être la seule, la dernière. Et c'est quand même cette vertu qui est célébrée jusque sur l'échafaud au moment, justement, où la révolution glisse vers la terreur. C'est quand même, c'est aussi cela, le chevalier de Maison Rouge, Pierre Bayard.
Vous savez que l'amitié est au cœur d'un des plus célèbres débats éthiques de la philosophie, qui est le débat entre Kant et Benjamin Constant, avec cette fameuse opposition où Kant s'opposant à toute forme de mensonge, et Benjamin Constant lui répondant, alors donc, si je vous suis bien, si vous hébergez chez vous un ami poursuivi par des tueurs, et que ces tueurs vous demandent si vous l'hébergez, vous ne mentez pas et vous répondez, mais oui, bien sûr, il est à l'étage. Et Kant dira, mais oui, je ne le trahis pas, mais je respecte mon refus du mensonge. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a la même scène exactement dans le livre, et que le débat Kant-Constant est postérieur à la terreur. C'est justement parce qu'il y avait eu tous ces crimes que Constant a apostrophé Kant sur son respect absolu des principes. Il y a exactement ici la même scène, parce que à un moment, lorsque j'ai laissé s'enfuir ma bien-aimée et son frère, le chevalier de Maison Rouge, les amis me demandent si j'ai vu quelqu'un, et je réponds non, si je mens. Et Lorrain est celui qui va effectivement considérer
que, au-delà du mensonge, au-delà des principes républicains, il y a une valeur supérieure, qui est l'amitié. C'est une des leçons du livre.
Oui, c'est chez Dumas, l'amitié est un thème pratiquement dans chaque roman. Mais enfin, le plus célèbre, c'était dans La Reine Margot, La Mole et Coconas. On a cette scène, une scène d'échafaud exactement de la même façon, où Coconas va prendre la tête de la Mole décapitée et va embrasser une dernière fois son ami. C'est une scène d'ailleurs que Chéreau, curieusement, n'a pas repris dans son Reine Margot, alors que c'était une merveilleuse scène à la Chéreau. Voilà, et donc on a différentes scènes dans l'œuvre de Dumas où l'amitié joue le rôle. Et qu'est-ce que les Trois Mousquetaires, sinon une romance, histoire d'amitié, en fait.
Vraiment d'une amitié extraordinaire, en effet. Mais vous dites... Pierre Bayard, que c'est pour des raisons éthiques aussi que ce roman vous a intéressé. Et d'ailleurs, c'est vrai, les questions éthiques dans votre essai éclipsent un peu le problème politique qui est posé ou le problème plus général de cette transaction entre les valeurs de la modernité incarnées par la Révolution et les valeurs de l'ancienne France dont Alexandre Dumas porte la nostalgie. En quoi ce roman est-il éthiquement aussi fécond ?
Pierre Parce Bayard. qu'à tout moment, depuis la bifurcation que vous évoquiez tout à l'heure, où je me retrouve dans la rue, où je me demande si je dois aider cette femme en difficulté, jusqu'à la fin, le roman met en scène des dilemmes. Donc des bifurcations et des choix que fait Maurice, et je m'interroge à chaque fois sur ce qu'aurait été mon propre comportement. Il m'arrive d'ailleurs de ne pas suivre ce qu'il aurait fait exactement.
J'y reviendrai.
Voilà. Ce qui me permet de remettre en scène ces grandes oppositions de la philosophie morale entre les éthiques des principes et les éthiques des conséquences autour de questions comme est-ce que la fin justifie les moyens.
Donnez un ou deux exemples de ces dilemmes qui vous ont particulièrement intéressé et qui sont présents dans le roman.
Alors, j'ai évoqué tout à l'heure celui de à laquelle la reine est soumise. J'ai évoqué aussi celui auquel est soumis Dixmer. Est-ce qu'il peut inciter sa femme à le tromper dans l'intérêt supérieur de la monarchie? Et puis vous avez le dilemme principal du livre qui parcourt chaque chapitre aussi bien de Maison Rouge que de mon essai. Est-ce qu'on peut trahir des principes politiques dans lesquels on croit, puisque je suis un fervent républicain, dans l'existence comme dans le livre, par amour? Là, vous posiez la question de l'amitié. Dumas, par l'intermédiaire de Lorin, semble indiquer que l'amitié est une valeur supérieure. Est-ce que l'amour est une valeur supérieure? Et est-ce qu'on peut accepter de trahir non seulement ses idées, mais de mettre en danger la France? Si la reine arrive à s'échapper, les contre-révolutionnaires remportent une victoire symbolique extraordinaire. Et là, on se trouve face à ce débat auquel le livre nous confronte, qui est celui du conflit de principes. Parce que chacun a des principes, hein, même ceux qui défendent les éthiques des conséquences. Le problème, c'est que dans les situations de la vie réelle, nous nous trouvons face à des conflits de principes. Il est évident que je ne dois pas, normalement, trahir la Révolution pour la femme que j'aime. Mais est-ce qu'en engageant une relation avec elle, est-ce que ses amis, est-ce que je ne me suis pas engagé dans une sorte de contrat de loyauté? Est-ce qu'il n'y a pas là un conflit de principes entre cette loyauté qu'est l'amour et mes principes révolutionnaires? Vous voyez, ce type de débat que le livre pose, sachant que, et c'est là c'est l'intérêt de faire ce que j'appelle une fiction théorique, c'est-à-dire de mêler le romanesque à l'essai, le personnage principal, comme moi-même, est plutôt du côté des éthiques des principes. Mais il fait le contraire, finalement. Tout en défendant une éthique des principes, il n'arrive pas à tenir la ligne qu'il s'est fixée parce qu'il est traversé par le désir.
Oui, mais ce que vous dites là, Pierre Bayard, m'évoque un passage extraordinaire de L'homme qui rit de Victor Hugo. Victor Hugo, homme des antithèses, pourtant.
Et grand ami de Dumas.
Et grand ami de Dumas. Et donc, il y a ce moment où il dit « La complication de l'événement produit la perplexité de l'esprit. Le devoir donnant des ordres en sens inverse, le devoir de tous les côtés à la fois, le devoir multiple et presque contradictoire, il avait eu cet effarement. Que le devoir ait des carrefours, c'est étrange. La responsabilité peut être un labyrinthe. » C'est exactement ce qui se passe. Parce qu'il y a le conflit de l'amour et des devoirs, mais il y a aussi parfois des devoirs contradictoires. Et je citais Kundera, et je peux citer maintenant un autre penseur d'Europe centrale, Kolakowski, disant « Notre vie se meut dans les liens des loyautés contradictoires entre lesquelles nous devons opérer un choix pratique dans des situations concrètes, enfreignant une loyauté au bénéfice d'une seconde, sans toutefois mettre cette première en question. » Et c'est ça les conflits de valeurs.
Et vous savez que le même Victor Hugo, grand ami de Dumas, en a mis en scène dans ses romans et par exemple dans Les Misérables, avec ce fameux chapitre Tempête sous un crâne, où Jean Valjean se rend compte qu'un innocent va être accusé à sa place et se demande s'il doit aller se dénoncer alors qu'il s'est refait une vie parfaitement normale. Alors on va se dire bien entendu qu'il faut qu'il se dénonce. Seulement il se pose la question très clairement. Toute la ville de Montreuil-sur-Mer repose sur l'entreprise qu'il a créée. S'il se dénonce, c'est des centaines de personnes qui retombent dans la misère. Et c'est exactement ce qui va se produire. Il va quand même se dénoncer. Et vous voyez, ces conflits qui sont des conflits la plupart du temps insolubles, et la littérature les met en scène de façon extrêmement pertinente.
Mais en même temps, Claude Chope, moi j'ai pas le sentiment que le conflit essentiel, ce soit le conflit entre le devoir et l'amour, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, Maurice Lindet, comme son ami Lorrain, sont porteurs aussi d'une vision critique de ce que la révolution, sous la terreur, est en train de devenir. Et donc, plus ils s'en éloignent, plus on comprend aussi, pour des raisons idéologiques, plus on approuve, en quelque sorte, leur éloignement.
Oui, bien sûr, il y a là une démonstration par le roman d'un engagement qui ne doit aller que jusqu'à un certain point. Enfin, on est dans l'admiration pour les Girondins, pour le début de la Révolution, et donc on refuse la suite de cette Révolution. Je crois que c'est ce qu'il dit là dans son travail.
Si je peux me permettre, je n'approuve pas mon propre éloignement, parce que je suis hostile tout à fait à la mise en place de cette machine de la terreur, mais je ne suis absolument pas partisan de remettre la reine Marie-Antoinette sur le trône. Or, c'est ce que je fais dans le livre, ce que je tente de faire en laissant s'enfuir ma bien-aimée et son frère. Là, il y a quand même une limite que, en tant que républicain, je ne tiens pas du tout à franchir.
Ah oui, donc vous êtes, de ce point de vue-là, vous divergez un peu de Maurice Lindet.
Le personnage que je suis aujourd'hui diverge. Le personnage que je suis devenu en entrant dans le livre n'a pas tenu le coup de ses principes politiques. Et je le regrette.
Vous le regrettez. Voilà. Bien, mais alors il y a aussi autre chose, Pierre Bayard. Parce qu'à un autre moment, je vous trouve un peu sévère avec ce pauvre Maurice Lindet. Donc vous regrettez tout cela. Et le lecteur, lui, est quand même amené à regretter la cruauté de la Révolution vis-à-vis de la reine, dont la Révolution oublie qu'elle est aussi une femme, par le traitement qu'elle lui fait subir, vis-à-vis surtout de l'enfant royal. On oublie que c'est un enfant au profit justement du symbole royal qu'il incarne. Mais bon, passons. Il y a ce fait que Maurice Lindet, à un moment donné, soumet la pauvre Geneviève d'Ixmeyre à une espèce de chantage. Il lui dit « Je te permets d'échapper à tes poursuivants en te donnant le mot de passe, mais à ce moment-là, il faut que tu me promettes d'être à moi, de te donner à moi, et vous dites « Ah, moi, Pierre Bayard, je suis pas comme ça, je force pas les femmes. »
Je confirme.
Je force pas les femmes. Mais oui, mais alors vous confirmez, d'accord. Mais Maurice Lindet peut le lui demander parce que elle lui a déjà déclaré son amour. Donc, si elle se refuse encore à lui, c'est en vertu de cette espèce de fidélité obsessionnelle qui était celle de l'époque à la promesse du mariage. Mais il ne la forcerait pas puisqu'elle l'aime. Donc, est-ce que vous n'êtes pas, à ce moment-là, un peu trop pinailleur, Pierre Bayard?
Disons que c'est un cas quand même de harcèlement. Donc, la loi le condamne, non seulement la loi française, mais la loi morale. Cela dit, il se rattrape, hein, parce qu'ensuite,
oui, il demande
un engagement, mais ensuite, quand elle vient pour tenir sa promesse, il la délivre. Mais
oui, jamais je n'imposerai l'amour à une douleur dédaigneuse. Voilà. Disons que vous souffrez et vous me dédaignez en même temps, je ne m'imposerai pas à vous.
Cela dit, il faut aussi préciser les raisons pour lesquelles je me désolidarise. Ce n'est pas des raisons très glorieuses, c'est par narcissisme. Je demande à être aimé par moi-même et pas au terme d'une menace. Voilà.
Oui, mais cette menace est formulée par un homme qui sait que cette femme l'aime. Oui, bah oui. C'est une menace, il lui dit, mais qui essaye de la, brutalement un peu, de la libérer d'un préjugé.
Oui,
c'est
oui.
Ça.
Je
n'êtes toujours pas d'accord.
Je maintiens mon opposition.
Vous êtes un puritain d'aujourd'hui, quoi, en un mot.
Non, mais je crois que là, même dans le cadre d'un couple où les personnes se sont engagées, il ne doit y avoir aucune forme de violence même morale. Non, non. Non, non, mais je vous l'ai dit, je suis plutôt du côté d'une éthique des principes, hein, même si par moments il m'arrive d'en bifurquer.
Et vous êtes aussi sévère que Pierre Bayard ?
Non, pas du tout. Non, non,
ah, pas
non,
du tout. Non, c'est-à-dire, vous comprenez mieux Maurice Lindel.
Oui, puis je crois que là, il y a un arrêt dans l'action, c'est-à-dire le désir, c'est quelque chose de fort, c'est un flux. Donc là, on arrête en se posant un problème moral. Non, je crois qu'on ne fait pas comme ça. Donc il faut respecter la narration du désir. Si j'ose dire.
Et Claude Chop, puisque vous êtes le spécialiste mondial, je le disais, d'Alexandre Dumas, quelle place occupe le chevalier de Maison Rouge dans votre cœur ? On a bien compris que Pierre Bayard était ou avait été amoureux de Geneviève d'Ixmer. Et vous ? Je ne sais pas si vous êtes amoureux de Geneviève d'Ixmer, mais est-ce que vous dites que c'est un
non,
des grands romans d'Alexandre
bon,
Dumas ?
Non, parce que ce ne serait pas moral, puisque c'est lui qui est amoureux. Ce serait,
merci.
La rivalité est difficile.
donc, ça serait bien voilà. Que vous entriez dans le roman aussi.
Voilà, c'est ça. Donc, entrer dans le roman, je me placerais plutôt du côté de Lorrain, en fait. J'essaierais d'être Lorrain.
Ah là là,
en essayant
bon,
de ne pas être guillotiné.
Très
enfin,
bon,
voilà,
très bon rôle.
C'est un très bon rôle.
Mais est-ce que c'est un grand roman de Dumas pour vous ?
C'est un très bon roman de Dumas. C'est un roman à la fois qui est très romantique en soi, dans la mesure où il y a à la fois justement du grotesque, quelquefois, beaucoup de grotesque, mais il y a toutes les possibilités du roman, c'est-à-dire à la fois on pleure, on rit, on... Non, c'est un très très bon roman, très réussi.
Et on pense aussi, on médite sur tous ces dilemmes moraux
voilà,
et aussi sur
très
la question
bien,
de la rupture révolutionnaire.
Et historiquement très très bien ancré dans la réalité historique. D'ailleurs, tout le début du texte nous montre bien les conditions réelles de la vie révolutionnaire à cette époque.
Bon, bah très bien. Alors justement, merci beaucoup Claude Chop et Pierre Bayard. Et sachez, chers auditeurs, que Le Chevalier de Maison Rouge est disponible dans la collection Bouquins, dans une édition de Claude Chop, et chez Folio Gallimard, dans une édition de Sylvie Torel-Caito. Ceux qui veulent savoir si Pierre Bayard a pu arracher in extremis l'héroïne à son sort funeste, doivent lire impérativement « Aurais-je sauvé Geneviève d'Ixmer » aux éditions de Minuit. On lira également, avec un grand profit, la biographie d'Alexandre Dumas par Claude Chop chez Fayard. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'identité de la France » et mes invités seront Natacha Polony et Alain Minc. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Stéphane Desmonts. Dans un instant, « Concordance des temps » de Jean-Noël Jeannonet. « En guerre, la stratégie de l'effroi » avec Hervé Drévillon.